France Inter.
Il a toujours mené une carrière au théâtre et au cinéma, sans oublier de remercier, en les partageant avec nous seuls en scène, les auteurs qu'il aime et qui le nourrissent. C'est en disant Céline qu'il a pris cette habitude, ou plutôt que vous avez pris l'habitude de venir l'écouter. En ce moment, il dit La Fontaine et le confinement au Théâtre Montparnasse à Paris et il lit Victor Hugo au Mathurin jusqu'au 21 mars et plus tard en octobre à l'Atelier. Bonjour Fabrice Lucchini.
Bonjour.
Heureux de vous recevoir dans le Grand Atelier avec Victor Hugo et le cinéaste des chansons d'amour, le metteur en scène de nouveaux romans. Bonjour Christophe Honoré.
Bonjour.
Vous venez de réaliser un film avec Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Melville Poupeau, Benjamin Biolay et Fabrice Lucchini. Et le film est en montage. Bienvenue à tous les deux. Je vais vous parler aussi d'abord du dernier livre de Christian Bobin. Il sort plus d'un an après la mort du poète chez Gallimard.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Trouvez-moi quelque chose de plus beau que l'écriture, bande de chiens, écrit Christian Bobin dans son dernier livre, Le Murmure. Fin 2022, le poète, malade d'un cancer, sait qu'il va mourir et l'on devine là qu'il s'agit de son testament. Écrire pour la dernière fois, dans une succession de paragraphes courts, tout ce qui compte pour lui, lui, l'écrivain né au Creusot, auteur du Très Bas et de l'Inespéré. À l'hôpital de Chalon-sur-Saône, avant sa mort le 23 novembre 2022, il trouve encore la force d'exercer son métier, cet art de s'adresser aux autres avec les mots, avec la plume, même en étant faible comme un palais dans un nuage. « Demain, ne m'apporte pas de fleurs, je ne veux pas qu'elles soient tristes. » Bobin ne pleure pas sur lui, il est encore animé par la beauté. On retrouve sa faculté d'admiration, les nuages, le talent d'un pianiste, l'amour qu'il a éprouvé pour une femme et celui qu'il ressent pour sa dernière compagne. Parle-t-il d'ailleurs à celle qu'il aime ou à la mort qui rôde ? Je repère le tout petit pli inquiet de tes yeux et j'y installe mon hamac pour la nuit. Je suis comme un fakir au-dessus de ma douleur. Dans ce requiem, plus encore que la beauté, Bobin voit l'invisible comme ces fleurs jaunes qui poussent dans le béton et qu'il a repérées. Lui seul semble à ce point relié à la nature. Ces fragments accumulés, ces éclats de pensée, cette ultrasensibilité célèbre le vivant, mais vante aussi la culture qui, je cite, « nous tire de l'ombre des ténèbres ». Une sculpture de Camille Claudel, la petite châtelaine, un dessin de Matisse ou Chopin quand le pianiste russe Sokolov l'interprète. Voici encore un livre de Christian Bobin que l'on referme, heureux qu'il existe, et décidé déjà à le relire. Le Murmure, Christian Bobin, chez Gallimard. Dans un instant, Fabrice Lucchini et Christophe Honoré, juste après la nouvelle grande voix de la soul américaine, Jalen Gonda. Fabrice Lucchini, trouvez-moi quelque chose de plus beau que l'écriture bande de chiens, écrit Bobin. J'imagine que ça résonne un peu en vous, cette phrase.
Bide énorme, elle retentit pas du tout. J'allais dire, je suis habitué aux insultes céliniennes, oui. Donc faut déjà être très très fort pour travailler l'insulte.
Bande de chiens, c'est
une
vous.
Une fois, j'ai eu un conflit avec une personne dont je tairai le nom qui m'a insulté sur mon SMS et je lui ai dit, il faut un souffle pour l'insulte, tu vois, et ça demande beaucoup de puissance. La phrase de Bobin que je respecte évidemment énormément.
Oui, c'est pas un gros poète favori, vous avez le droit. Trouvez-moi quelque chose de plus beau que l'écriture, virgule, bande de chiens.
Oui, je suis incapable de partager. Ça
vous parle pas.
Pas du tout.
Bon, vous avez pas mal de dons dans la vie, Fabrice Lucchini. Mais est-ce que vous avez aussi celui d'écrire? Vous avez écrit des livres, mais
j'ai écrit un bouquin avec Vincent Trémollet-Villers qui s'appelait Comédie française. Il m'a énormément aidé. Puis j'ai tenu un petit journal.
Est-ce que
mais
vous
j'ai
regrettez...
trop d'admiration pour l'écriture pour oser dire que j'ai. Tu sais, je pense toujours à Flaubert qui parlait aux grands écrivains, aux vrais écrivains, et il disait toujours à George Sand qui ne comprenait rien à ce qu'il faisait. Hein. Il disait toujours ne pas s'écrire, surtout ne pas s'écrire. Il faut être dans la création comme Dieu. Il faut être dans son œuvre comme Dieu dans la création, présent partout, visible nulle part. Il aurait été désorienté de l'époque dans laquelle on est, de l'assouvissement narcissique de l'espace littéraire pour parler de son moi. Je pense toujours à cette merveilleuse phrase de Deleuze qui disait « Pourquoi Proust et Céline sont les deux grands tempéraments romanesques du XXe ?» C'est parce que Proust n'a jamais parlé de son enfance. Il a parlé de l'enfance et Céline n'a jamais parlé de sa misère, il a parlé de la misère. Ça ne peut pas être une chose, selon Deleuze, qui n'était pas un couillon, ça ne peut pas être une chose. Et je pense que quand Flaubert dit ne pas s'écrire, t'imagines notre époque, tout le monde s'écrit. Enfin, il ne s'écrit pas entre eux, tout le monde s'assouvit personnellement. C'est étonnant. Le projet de Flaubert est dément. Tu sais, quand il dit de Victor Hugo, j'aurais donné Madame Bovary en entier pour avoir pondu le verre, qui est pourtant, avant qu'il le dise, je l'ai trouvé beau, mais je ne savais pas qu'on serait prêt à donner une œuvre entière, le fameux « L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle ». Tu sais, c'est les souffles de la nuit flottaient sur Galgala, l'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Des anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer... Voilà, dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. Attendez, je vais la reprendre, parce que ça, je déteste écorcher ça. Hein? L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Des anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. Tu sais, c'est la grande découverte de Peggy. Hugo n'a plus de talent, là. Il a du génie. Hugo est rempli de talent en général. Mais Peggy n'aime pas le talent. Il aime que le génie, et c'est pour ça qu'il dit que Corneille est le plus grand poète tragique, car il n'a aucun talent. Il ne sait pas y faire.
Je me tourne vers votre invité. C'est vous qui l'avez choisi, cinéaste, le romancier Christophe Honoré. On parlait de l'écriture avec Fabrice Lucchini qui dit qu'il a trop de respect pour tenter un jour de prendre un crayon ou son ordinateur. Vous avez commencé par ça, Christophe Honoré. J'ai lu, quand j'étais jeune et vous étiez plus jeune que moi encore, des romans pour enfants, du théâtre. Et vous disiez, je me souviens bien quand vous aviez 28 ans à Avignon, je rêverais d'être Cocteau, je rêverais d'être Pasolini, de pouvoir toucher à plusieurs arts à la fois, ce que vous avez fait, mais... L'écriture romanesque, vous l'avez un petit peu mise au placard. Elle n'est pas revenue depuis un petit moment. Qu'est-ce qui se passe avec cette écriture-là ?
Non, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que je publie pas. C'est très très différent en fait.
Vous écrivez ?
Il y a une grande différence entre écrire et publier. Et c'est que voilà, donc c'est vrai que le cinéma en fait c'est très chronophage et puis c'est vrai que comme maintenant je passe aussi pas mal de temps au théâtre, c'est beaucoup plus difficile en fait d'aboutir tout simplement à des livres qui me semblent intéressants. Donc, mais je peux pas dire non. Au contraire, j'ai l'impression que j'ai passé beaucoup beaucoup de temps. Enfin, la plupart du temps, d'ailleurs, vous dites que vous écrivez, mais vous n'écrivez pas. La majorité des journées que vous consacrez à l'écriture, en fait, vous écrivez quatre phrases ridicules et le lendemain vous les barrez. Donc,
mais le désir romanesque est toujours dans la vie de Christophe Honoré.
Oui, d'ailleurs, je crois que je l'assouvis autrement aujourd'hui, que ce soit dans ma manière de faire du cinéma ou du théâtre, en fait. Je me sens quand même souvent une place d'écrivain, plus que de metteur en scène, peut-être.
C'est-à-dire, expliquez-nous ça.
Bah, déjà, parce que je travaille en général sur des pièces que j'écris personnellement, des scénarios que j'écris personnellement, et donc... je sais pas comment dire ça. Après, au cinéma, ça a été un peu comme ça pensé quand on parlait de la politique des auteurs. On sait plus très bien ce que ça veut dire en fait un cinéma d'auteur aujourd'hui. Mais je crois qu'un cinéma d'auteur, c'est justement ça. C'est un cinéaste qui écrit ses films et qui continue dans son travail et dans la mise en scène en fait à avoir un rapport qui est principalement un rapport d'écriture.
Vous avez tourné récemment avec Christophe Honoré dans son dernier film.
J'aime bien ton ton parce que il y a une densité alors que on dirait que c'est un truc hyper grave alors que c'est une belle rencontre parce que vraiment j'adore Honoré. Alors je vais pas le dire devant lui.
Mais
parce
vous n'aviez jamais joué avec lui.
Non, on n'a jamais. J'avais jamais tourné avec lui.
Alors est-ce que vous avez été dirigé par un écrivain?
J'ai été dirigé par une incarnation. C'est très compliqué la direction d'acteur. Les bien, bien malin celui qui serait capable de l'objectiver. La direction d'acteur, c'est peut-être un peu aussi les aimer ou les détester. Ça peut faire partie.
Qu'est-ce que vous sentez de la part d'Honoré sur un plateau?
Non, mais moi, j'ai eu un petit coup de foudre, je ne vais pas le dire devant lui. Coup de foudre parce qu'il y a des êtres, Terzieff était comme ça, il y a des êtres qui te réveillent le meilleur. Alors, il y a des êtres qui réveillent le plus médiocre, le plus mesquin, le plus minable. Et puis, il y a des êtres qui, par leur présence, c'est très embarrassant pour lui, te mettent dans un climat qui est très bon, qui est le climat de la non-compétition, qui est un sens de la joie, du côté ludique, une anxiété qui n'est pas du tout agressive, qui est une anxiété qu'il garde pour lui. Et puis, c'est merveilleux, la direction d'acteur, c'est un drôle de thème. Je me rappelle Chabrol, j'avais fait très peu de choses avec lui. Et il me disait, je comprenais même pas quand il parlait, bon, tu vas prendre le truc. Voilà. C'était de la direction, mine de rien, je comprenais pas, mais il me disait quelque chose. Romère, on connaît la phrase mythique de Romère, hein. J'ai quand même tourné 6 films avec lui, tout le monde me dit c'est un grand directeur d'acteur. Pas du tout, il dirigeait pas du tout. Puisque la seule fois où il m'a interrompu dans un film qui était La Nuit de la Pleine Lune, il m'a dit non, il faut arrêter, il faut ça. J'étais très étonné, je dis vous voulez qu'on la refasse, Eric? Il m'a dit oh oui, j'aimerais beaucoup que vous la refassiez. Mais dans quel genre vous voulez? Ce que vous voulez? Et puis il s'est approché de moi pour faire le clap parce que il voulait éviter un poste, donc c'est lui qui faisait le clap, et il m'a dit cette phrase étonnante. Il m'a dit, faites ce que vous voulez, mais plus Fernandel. Et puis voilà, moteur. Donc le seul conseil que m'a donné Romère sur 6 films, c'est plus Fernandel. Et quand je voyais les critiques dans les cahiers du cinéma, catatonie et hâte fébrile, telles vont être en effet les différentes étapes que vont manifester le corps de Lucchini qui joue Perceval, corps qui à lui seul, comme disait Jean-Claude Biette, suffit à justifier l'action de la graphologie de l'âme. Je me disais putain, j'avais d'ailleurs montré ça à mon père et mon père m'avait dit une phrase merveilleuse, t'es sûr qu'il se fout pas de ta gueule? Alors ça, pour vous dire que c'est très bizarre la direction d'acteur.
J'ai envie de vous écouter.
C'est l'amour. La direction d'acteur, c'est aimer le mec avec qui tu tournes.
Je vais laisser répondre Christophe Honoré sur cet amour-là. Et on va écouter Lucchini dans Perceval le Gallois.
Il est tard. Je dois vous laisser.
Ne partez pas, très cher ami. Soyez heureuse cette nuit. Consolez-vous, ne pleurez plus. Étendez-vous donc là-dessus. Ôtez les larmes de vos yeux. Dieu, s'il lui plaît, vous fera mieux demain que vous ne m'avez dit. Près de moi, venez en ce lit. Il est large assez pour nous deux.
Et elle dit, s'il vous plaisait, je le ferai.
Vous vous souvenez de cette scène, Fabrice Lucchini?
Oui, j'étais tout nu.
Ah oui.
Dans le pieu. Et un jour, Nestor Almendros, l'immense opérateur, celui que Truffaut a révélé, qui arrivait du Cuba et qui avait une animosité contre tous les acteurs qui osaient dire du bien de Marx et de Che Guevara, parce qu'il avait été en prison pour les homosexuels, fallait pas l'emmerder sur les... fallait pas lui dire qu'il aimait une société marxiste, il se barrait du plateau. Il avait été en prison, hein. Les homos étaient en prison. Et il s'était approché du lit pour remettre un drap et ça n'avait pas plu à Romère. Il a dit, il n'y a que moi qui touche le lit. Et alors il avait remis le drap. Et Perceval, c'est le plus beau souvenir parce qu'ils étaient 1000 le jour du Festival de Paris, 1000 spectateurs. Et au bout de 10 minutes du style, se leva et ne tarde guère, crac, 200 qui partaient. Après, votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé, crac, 300 qui partaient, et su en grande pauvreté, ce qui fait qu'on s'est retrouvé 83 à la fin du truc, et il était très content, Romère, il disait, non, c'est très intéressant qu'il y ait encore 80 personnes. Donc on a fait un débat sur le concept de l'acier avec deux intellectuels qui avaient levé la main en disant c'est absolument génial, votre film c'est la fin du masculin et du féminin. Alors Eric dit, mais pourquoi vous dites ça? Ben parce que le premier plan il y a trois hommes et le deuxième plan le cœur n'est que trois femmes. Pourquoi? C'est évidemment la preuve. Et il a répondu, ils étaient trop nombreux pour les mettre dans le cadre, alors je les séparais en deux. Donc Romère était un être très très simple. Très simple. Mais bon...
J'ai pris cet extrait-là parce qu'on entend la langue d'un auteur.
D'un auteur.
Est-ce que vous avez retrouvé des auteurs dans votre parcours?
Des auteurs, j'en ai retrouvé.
Avec cette puissance-là du texte.
De Chrétien de Troyes?
D'autres auteurs que Romère?
Ah, comme metteur en scène?
Oui.
Oh, il est tellement atypique, Romère. C'est un autre être humain. Hein. C'est, tu comprends, un homme qui est capable de, en quelque chose, de te nommer alors que la doxa ambiante ne dit pas que tu existes. Enfin, parlons simplement. Hein. On n'est pas chez Barthes. Moi, j'adore Roland Barthes. Hein. Mais en gros, Romère me propose Perceval alors que les producteurs voulaient des noms connus. Et lui, il était un homme libre. Il était tellement libre qu'il disait « c'est lui ». Et on lui a dit « pourquoi ?» Il dit « parce qu'il ressemble au prince Charles ». Alors je ne sais pas si c'était valorisant. Et il m'a donné un rôle écrasant dans le gros échec commercial de Romère. Puis après, on avait fait « Les Nuits de la Pleine Lune » qui ont été un vrai succès.
Oui, gros succès, « Les Nuits de la Pleine Lune » dans les années 80. Christophe Honoré, pourquoi avez-vous choisi Fabrice Luchini dans un film qui tourne autour de Chiara Mastroianni et de son père, Marcello?
C'est drôle, je pense que c'est quand même Romère hein, qui m'a amené principalement à Fabrice quand j'étais adolescent et cinéphile, parce qu'il y a quand même le genou de Claire aussi.
La vérité que c'est pour la première fois j'ai dragué un metteur en scène. Non, pas dragué.
Ah, c'est vous qui êtes venu.
Je crois quand même que je l'aurais.
Ah bon, non, parce que pour la première fois, moi, je suis pas stratège. Je suis quelqu'un d'assez de pas stratège du tout. Je crois à la grâce. Faut peut-être pas exagérer. En tout cas, j'aime pas le labeur d'appeler comme certains.
Ozon est venu vous chercher, par exemple.
Ah oui, Ozon, oui. Mais
vous n'aviez jamais sollicité quelqu'un?
Ah non, j'ai jamais sollicité personne.
Et Honoré, oui.
Oui, parce que...
Non, tu ne m'as pas sollicité.
Non, je ne t'ai pas sollicité pour tourner. Je me suis permis d'envoyer un compliment, tout simple. C'était une scène avec Camille Cotin, Benjamin Biolay et Mastroianni dans la chambre...
212.
Et je me dis quand même, c'est culotté. Et c'est tenu. Et dans la nuit, comme ça, j'ai senti l'affirmation d'un style. Et j'ai dit, je vais lui mettre un SMS. J'ai demandé à Cotin le téléphone, à la merveilleuse Camille Cotin, le téléphone. J'ai dit, et il m'a envoyé un petit SMS qui est, ça fait plaisir ces manifestations d'entraide hors sortie de film.
Est-ce que l'idée...
Et c'est tout, hein. Ça s'est arrêté là, j'ai pas répondu « t'aimerais m'avoir dans ton film », j'ai jamais fait
non,
ça.
Mais peut-être que ça te donnait envie, en plus de Romère, Chrétien de Troyes et les autres films qu'on a cités, les Nuits de la Pleine Lune.
Non, après, en fait, on sait pourquoi à un moment... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Fabrice, il était là dès l'écriture de ce projet. Moi, j'aime bien écrire pour des acteurs, en fait. Alors après, des fois, ils vous disent non. Et c'est vrai que quand j'ai envoyé le scénario à Fabrice, j'avais peur, en fait, qu'il me dise non.
Parce que je sais que vous êtes très discret sur le film, mais qu'est-ce qu'il joue? Qu'est-ce que vous lui faites jouer?
Il joue un acteur. Un acteur qui... voilà, il joue un acteur.
Il s'appelle Fabrice Lucchini.
Il s'appelle Fabrice Lucchini.
Oui, donc tu vois, il n'y a pas d'effort de transposition énorme. Jusqu'à là, pas d'acteur studio.
Et il vous fait parler de Hugo, de Roland Barthes et autres ?
Non.
De Romère ?
Est-ce que je peux répondre que tu as il m'a fait jouer un rôle très loin de moi. C'est un ami... plein de tendresse,
ouais, c'est ça.
Et plein de générosité. C'est très loin de moi. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez mesquin, minable et médiocre. Et il m'a fait jouer un mec bien.
Donc un rôle de composition.
Non, parce qu'en réalité, le talent de l'amour, c'est que ça réveille ce qu'il y a de pas trop mal dans ta vieille carcasse.
C'est ça le rôle d'un metteur en scène ?
Oui, je crois que c'est vraiment le rôle. En tout cas, c'est quand on parlait tout à l'heure de l'écriture, elle est là. Je me suis dit, tiens, voilà, c'est vrai que c'est un personnage qui est sur la tendresse. Et c'est compliqué, en fait, de confier de la tendresse à un personnage, à un acteur. Enfin, parce que ça peut vite être, dégoulinant, etc. Et je me suis dit, ah, Fabrice, il serait intéressant en personnage tendre. Et parce qu'il y a aussi beaucoup de tendresse. C'est-à-dire que... moi, chez Romère, par exemple, dans Les Nuits de la Pleine Lune, on peut dire que c'est un personnage comme ça, de dandy, qui peut être un peu cruel, un peu voilà. Mais je vois surtout, en fait, une énorme tendresse et puis voir une certaine détresse d'amant délaissé qui se joue ami, etc. Et puis après, il se passe en fait parce que c'est rien de choisir des acteurs et même j'allais dire, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Fabrice, mais quand on dit oui à un scénario, en fait. Il faudrait pouvoir dire oui et puis deux mois après dire finalement non, on va pas le faire. Ouais, après ça se joue vraiment dans les premières rencontres, dans la manière dont on discute, dans la manière. C'est là où vous voyez si finalement quelque chose se passe ou
les
pas.
Les corps, on va faire un télo puisqu'on est sur France Inter. Deleuze disait quand quelqu'un te dit passe-moi le sel, tu ne comprends pas sa demande et il y a des gens qui se lancent sur Spinoza ou sur Hegel et tu comprends tout ce qu'ils disent parce que ça part d'un endroit comme on le disait dans les années 70 où il y a une accointance organique, c'est que du corps et du désir et de l'affection. Et d'ailleurs sur le Hugo que je joue, je me rends compte par exemple qu'Hugo est un corps qui marche.
On va parler de Hugo
avec plaisir
et de ce que vous avez choisi de lui.
J'aime beaucoup l'ambiance de ce. C'est la première fois que je fais une radio avec juste Christophe Honoré et vous.
Ah bah, mais ça me fait plaisir.
Et dans l'abandon du moindre projet efficace, dans le rien.
Vous savez ce qu'on va faire ?
À la Pessoa. Le portugais, grand poète, le journal de l'intranquillité.
Oui, c'est vrai.
Tu aimes ?
Ah oui, beaucoup.
Je sens que tu es très Pessoa. Tu es pas Nietzsche du tout, toi.
Non, c'est vrai.
Non, tu détestes Nietzsche.
Il est très fin et très sensible, Fabrice Lucchini, mais vous le savez aussi bien que moi. On va écouter un ami à lui, c'est Johnny Hallyday. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir.
Tu sais, Vincent Josse, la réalité, vas-y. Alors, il est où ?
Il est dans vos oreilles, vous pouvez mettre le casque et les auditeurs aussi. C'est parti, Johnny.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne. Je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant je cherche tout simplement l'amour. Et une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Dans la nuit je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser. Oui, le spectacle terminé. S'en aller ailleurs au lever du jour. l'on est même qui m'envie. Mais s'il pouvait savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis.
Un petit Johnny Hallyday en direct sur France Inter à 17h30 oui. Pour Christophe Honoré et Fabrice Lucchini.
Petite anecdote pour Christophe et pour vos auditeurs. C'est un des moments les plus... une fulgurance, quoi. C'est presque un moine zen. Il s'avère qu'on tournait un film... on était à la Thalasso de
Quiberon.
De Quiberon, bien joué. On était... Et puis, c'était les deux derniers jours. Et on tournait de nuit. Et comme dirait Johnny Hallyday, pour tourner de nuit, il faut attendre la nuit. Mais c'est ce qui est vrai, en plus. Mais le génie d'Hallyday, c'est qu'il revisite des évidences. Et donc, on tournait... On était au HMC, machin, maquillage, coiffure et costume, à 9h. Donc j'arrive vers 8h20, et là il m'arrête et il me dit qu'est-ce que t'as fait, toi, pour attendre 8h20 à Quiberon. Alors, parce qu'il faisait beaucoup de bruit avec le nez. Je lui dis, bah, rien de spécial, Johnny, j'ai fait comme tous les jours, trois quarts d'heure de marche pour calmer un peu ma nervosité au niveau de mon cœur, de la tachycardie. Je suis rentré, j'ai écouté Glenn Gould, tu sais, quelques partitas merveilleuses. Et puis, j'ai terminé le merveilleux livre de Schopenhauer, Métaphysique de l'amour et de la mort. Et il m'a répondu cette chose extraordinaire. Tu t'es fait chier, quoi. Alors, voilà. Ça, c'est le génie de Johnny Hallyday.
Et l'histoire de...
t'es fait chier, c'est du génie. Parce que c'était peut-être pas faux. C'est un personnage pascalien. Je crois que personne n'en a parlé. Il s'embêtait tout le temps.
Ah oui.
Et les gens n'ont pas parlé de cette aptitude à l'ennui. Il a fait la plus belle phrase sur les roches. Puisque Christophe est là, je vais lui faire ça en hommage. Vous savez, les roches, c'est... Romain nous interdisait de dire les roches. Fallait dire les boues, pour pas faire du franglais. Alors, les roches, maintenant, ça se fait moins, mais il y a 20 ans, on allait aux séances, on regardait ce qu'on avait tourné, et le maquilleur était content de son maquillage ou pas content, puis les acteurs étaient jamais conviés, parce qu'ils pensent qu'à leur pomme, et Romère surtout disait, et surtout pas l'actrice ni d'acteur, parce que sinon on s'en sort pas. Mmh. Et puis, en pleine nuit, avec Johnny, ne sachant plus comment retravailler le rapport, et je sentais qu'il était triste, un peu, je lui dis, et dis-moi, mais est-ce que t'as vu des roches de ce qu'on a tourné depuis un mois? Et il m'a répondu cette chose qui prouve son génie. J'aime pas beaucoup les roches. Mmh. J'aime pas beaucoup les roches parce que tu vois toujours la même scène, surtout que je les ai déjà jouées. C'est prodigieux. Ça veut dire que il usait tout. Vous comprenez? Par exemple, mon métier d'acteur au théâtre, c'est que je n'use rien. Moi, je suis... Hugo, que vous avez vu, c'est des milliers d'heures, mais c'est jamais usé.
Alors racontez-nous comment on travaille Hugo pour la scène, c'est-à-dire que ça va durer une heure et demie.
Maintenant, il fait une 45, ça s'est allongé.
Une 45.
C'est plus cher que vos petits théâtres où vous avez été, donc moi, je suis cohérent, je suis commerçant. Quand il y a plus cher, il y a plus en marchandises. Très, très obsédé, c'est ce que Jouvet disait toujours. Quand tu voles une syllabe, tu voles comme si tu demandais un kilo d'orange et que t'en donnais 900 grammes. Puisque Molière a écrit en 12 pieds, tu dois respecter ses pieds, imbécile.
C'est facile. Bon, ce qui est fascinant, c'est que vous avez même fait, il y a quelque temps, un spectacle sur l'argent et votre rapport à l'argent.
Le rapport à l'argent. Et d'ailleurs, Fabienne Pasqua, avec beaucoup d'humilité, a dit qu'elle a eu tort d'avoir pensé que c'était indécent. Elle a même dit, mais j'ai compris tardivement, c'est un ancien pauvre. Donc, en réalité, il y avait beaucoup de choses. Il y avait Zola qui parlait de l'argent, Freud qui parlait de l'argent, Nietzsche qui parlait de l'argent, Guitry qui parlait de l'argent.
Et Lucchini.
Et moi qui racontais en me caricaturant mon angoisse pendant les années 2008 pour montrer que je sentais que mon économie allait s'effondrer.
Hugo arrive dans votre vie avec ce désir de le dire.
D'abord, on s'épuise. Le but pour essayer d'être à la hauteur d'une certaine restitution, vous savez, si vous dites j'ai bien assez vécu, puisque dans mes douleurs, je marche sans trouver de bras qui me secourent, puisque je ris à peine aux enfants qui m'entourent, puisque je ne suis plus réjoui par les fleurs. Puisqu'au printemps, quand Dieu met la nature en fête, j'assiste, esprit sans joie, à ce splendide amour, puisque je suis à l'heure où l'homme fuit le jour, hélas, et sans de tout la tristesse secrète, puisque l'espoir serein dans mon âme est vaincu, puisqu'en cette saison des parfums et des roses, ô ma fille, j'aspire à l'ombre où tu reposes, puisque mon cœur est mort, j'ai bien assez vécu. Et il continue en disant, j'ai bien assez, je n'ai pas refusé ma tâche sur la terre, mon sillon, le voilà, ma gerbe, la voici. J'ai vécu souriant, toujours plus adouci, debout, mais incliné du côté du mystère, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai servi, j'ai veillé, et j'ai vu bien souvent qu'on riait de ma peine. Je me suis étonné d'être un objet de haine, ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé. Dans ce bagne terrestre où ne pousse aucune aile, sans me plaindre, saignant et tombant sur les mains, morne, épuisé, raillé par les forçats humains, j'ai porté mon chaînon de la chaîne éternelle. Maintenant, mon regard ne s'ouvre qu'à demi. Je ne me tourne plus, même quand on me nomme. Je suis plein de stupeur et d'ennui, comme un homme qui se lève avant l'aube et qui n'a pas dormi. C'est très étonnant, Hugo, quand même. Pourquoi ça peut pas me... Je serai jamais usé. Ou plus exactement, mon but, c'est... Plus l'épuisement est grand, plus la phrase s'impose à toi, plus le corde impose des silences, et plus tu... C'est presque un combat avec le... J'exagère un petit peu. Il faut rien mettre de soi.
Oui.
Il faut mettre aucune intention. Il faut pas faire semblant avec une voix intense. J'ai bien assez vécu, puisque dans ma douleur, non. Mmh. Pas. Les mots suffisent. Mais pour que les mots suffisent, il faut les dire d'une manière très claire. Et les dire, c'est pas les jouer. C'est surtout pas jouer les mots. Faut pas dire j'ai bien assez vécu. Y a pas besoin d'insister. C'est se contenter de restituer. Et d'être le plus fluide possible en admirant au service de l'auteur et que le corps te dise, c'est le corps qui dit la respiration. Enfin, on va pas faire un cours de théâtre.
Mais est-ce que vous avez le temps, vous, Christophe Honoré, sur un tournage avec un Fabrice Lucchini ou une Chiara Mastroianni? Ou une nappe de tournée? de sortir la caméra? Non, justement, de pouvoir entendre un acteur raconter ce que c'est que le cœur et le corps à l'ouvrage.
Bah, en fait, ce qui était assez étonnant, c'est que quand on tournait, justement, Fabrice, il était complètement plongé dans les textes de Hugo. Donc, il y a plein de temps morts, en fait, sur un tournage. Et je me souviens, notamment, en fait, d'un soir, on était dans une chambre, en fait, et il a commencé comme
avec
ça.
Avec Estelle Le Poivre.
Non, c'était avec Florence Viala. On était avec Florence Viala.
De la Comédie Française.
De la Comédie Française. Qui était remarquable, qui jouait la femme.
Exactement.
Ouais. Et déjà, je me suis lancé dans un truc sur...
Voilà. Et à un moment, les machinaux arrêtent de poser les travelling, etc.
Tout le monde écoute Fabrice Lucchini.
Mais ouais, il y a... C'est plus qu'une écoute, en fait, c'est une veillée. C'est-à-dire que ça nous rappelle aussi ce qu'on fait, tout simplement. Enfin, c'est pas une récréation. Et c'est assez beau. Et après, je pense que je comprends très très bien quand Fabrice il dit il y a que le corps, faut surtout pas se mettre à jouer, etc. Je pense qu'il veut pas dire, il veut dire qu'il faut surtout pas jouer au personnage acteur.
On n'est pas Victor Hugo.
Voilà.
On n'a pas perdu sa fille à 19 ans. Donc pourquoi par un trémolo tu vas faire croire à une intensité. Si tu te contentes de servir le génie qui a agencé ça, tu verras que l'émotion viendra. Mais c'est pas toi qui l'imposera, elle te traversera.
Après, ce qui est très fort quand même, c'est quand on va le voir sur scène, en fait, il est hanté quand même par le texte. Et c'est très très étonnant parce qu'il est pas hanté par le texte de La Fontaine quand il fait La Fontaine ou quand il fait Hugo de la même manière. Et donc, parce qu'il y a une espèce de modestie quand même chez Fabrice à vouloir se présenter comme ça, que comme une espèce d'enceinte ultra sensible des textes, on va dire. Mais il y a quelque chose quand même du jeu qui intervient et qui advient, mais qui effectivement essaye d'éviter tous les lieux communs, tous les clichés et tout d'une psychologie ou de ces costumes un petit peu de personnages. Mais il y a quelque chose qui est très très étonnant parce que moi j'ai vu son La Fontaine et son Hugo finalement
à 8 jours,
pas grande, voilà. Et c'est drôle parce qu'on dit son La Fontaine et son Hugo,
ouais.
Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est très metteur en scène, en fait, de ces textes. C'est pas des lectures, c'est quand même bien des je sais pas, ouais, c'est assez troublant, en tout cas quand on est dans la salle. Et c'est vrai que sur le Hugo, où il a, t'as quand même choisi plutôt le
la Hugo, mélancolie.
Voilà, le moment du retrait,
le désespoir, de l'exil après,
De la solitude, du.
Oui, j'ai pas choisi la grande trompette progressiste, heureuse. J'ai mélancolie, mort de Léopoldine et après exil. Et puis après poésie de génie.
On va écouter l'académicien Jean Mistler évoquer la mort de l'une de ses filles, Léopoldine, à Hugo, et cette nécessité qu'il a ressentie de faire tourner les tables pour parler à sa fille morte. Écoutez-le.
Il est seul en face de la mer. Et le 4 septembre 1853, il pense avec une concentration extraordinaire de son esprit à sa fille Léopoldine, qui est morte 10 ans plus tôt, noyée dans la Seine, sur une barque fragile, au cours d'une promenade avec son mari. Et voilà que le 6, une vieille amie de la famille Hugo, Delphine de Girardin, débarqua dans l'île pour venir leur rendre visite. Et après les embrassades de l'arrivée, la première question qu'elle posa à la famille Hugo, c'était « Faites-vous des tables ?» Faites-vous des tables signifiait « Faites-vous des tables tournantes ?» Des craquements, des coups, qui es-tu ? La table épela « Fille morte ». Tout le monde, dit le procès-verbal, pense alors à la fille que Hugo a perdue. « Qui es-tu ? » La table répond, moitié en français, moitié en latin, « âme soror », c'est-à-dire « âme sœur ». On comprend aussitôt que c'était la sœur de Charles et de François-Victor Hugo qui était là. « Nous sentons tous, écrivait Cri, la présence de la morte, tout le monde pleure. » Hugo prend alors la direction de l'interrogatoire. « Es-tu heureuse ?»« Oui. » »« Où es-tu ?»« Lumière. » »« Que faut-il faire pour aller à toi ?»« Aimer. » »« Qui t'envoie ?» demande Madame de Girardin. « Le bon Dieu. » Presque chaque nuit, désormais, Hugo va interroger les tables.
Et ça, ça vous fascine, parce que vous consacrez un beau moment
c'est bizarrement dans mon spectacle, la respiration qui fait vraiment rire. Alors que je ne pactise pas du tout contre Hugo en essayant de provoquer le rire. Mais quand, dans la table, je dis « Qui est là ?» demande Hugo et qu'on entend « Molière », alors, ah bon ? Alors si tu veux bien nous répondre, 2 coups, sinon 1 coup. La table frappe 2 coups. Bon, Hugo est de super bonne humeur. Alors Hugo, dis-nous, nous avons préparé quelque chose en verre. Préfères-tu qu'on te le dise tout de suite ou que la question te soit posée plus tard ? Pas de réponse. La table est immobile. Ah, les gens commencent vraiment à... Et tout d'un coup, Hugo s'interroge en disant « Peut-être nous avons froissé la table et elle a trouvé que nos questions sont un petit peu agressives. » Alors là, évidemment, le public fonctionne parce que c'est dément. Qu'est-ce que tu veux ? Il y a même une séance. Il a pas du tout aimé au début, hein. Mais la Delphine Girardin l'a eu par le truc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que il est en contact avec Jésus, avec Platon, avec Sophocle, avec Mahomet. Ça y va. Les soirées sont très riches, tu vois. Et à un moment, il dit « Qui est là ?» La table répond « Shakespeare ». C'est quand même assez sympathique. Tu es à Jersey en plein février. Il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de portable. Tu es face à face. Tu es ce corps génial d'Hugo. Heureux, parce que ce qui est merveilleux dans cette lecture, c'est que j'ai découvert qu'il a jamais été aussi heureux. Il avait beaucoup moins de sollicitations sexuelles. Parce qu'il faut quand même pas oublier que Hugo était une bebon de sexualité.
Oui.
Très gros pratiquant. Et donc, il avait la femme, avec qui il n'y avait plus rien. Il y avait Juliette, mais il y en avait beaucoup d'autres.
Juliette Drouet.
Oui, mais il y en avait beaucoup d'autres. Oui. Il y en avait des 5, 6, 7. Et là, Jersey, il n'y en avait plus. Il y avait juste Juliette, tranquille. Et ça lui a permis... et à un moment, il dit, qui est là ? La table répond, Shakespeare. Et là, Hugo dit, nous sommes fatigués, peux-tu revenir demain à 8 heures ? La table répond, oui. Non, mais c'est prodigieux.
Mais ça, faudrait le mettre en scène au théâtre, Christophe.
Le livre des tables. Le livre des tables.
C'est vrai que vous jouez tout, même les tables.
Ah oui, moi. Et alors, si nos auditeurs veulent commencer, il faut une table à trois pieds, ovale. Oui. Et comme celle où que je pratique au théâtre, à la quatre pieds, il n'y a pas de danger. Mais les gens rient beaucoup. Pourquoi? Bah, évidemment. Puis ça délivre de, mais c'était très sérieux, ça pas. C'est la légende des siècles qui va après sortir de tout ça.
Oui.
C'est-à-dire que le personnage est tellement dément. Mmh. Il est tellement hors norme. Il est capable aussi de vers incroyablement pas parfaits, comme un Rimbaud, comme un Mallarmé. On pense toujours à la phrase merveilleuse de Jules Renard. Mallarmé est intraduisible, disait Jules Renard, même en français. Mais c'est vrai que Mallarmé est un génie. Mais tu faire 1h40 comme je fais sur Hugo, ça pourrait pas fonctionner.
Vous savez ce qu'on va faire? On va écouter Vanessa Paradis, qui chante avec Voyou. Et la chanson s'intitule Le Bal.
Aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, se joue le bal de la vie et de ses amours, ceux qui s'effacent et ceux qui resteront toujours.
Un grand bal qui s'étale, ravissant, insensé, 100 000 âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués. Certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance en quelques pas de danse, c'est vrai.
J'ai flanché, genoux au sol. On a dansé sous les valses folles.
Dans cette salle sans issue de secours,
bruyant le bal me rappelle à mes amours.
Premier fil se confondra d'autres contours.
Qu'un coup de cil m'a fait perdre pour toujours.
C'est sans mal, je l'avoue, que déroule sous mes doigts une première cavalière, une deuxième et puis trois.
Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée où tourbillonne autant de beauté.
J'y perdrai folle. J'y perdrai la tête en vol, à errer seul sous les valses folles.
Soudain mes yeux se figent sur un beau portrait qui semble lassé d'une étreinte trop serrée. D'un geste se dégage et fend dans l'assemblée.
Me rejoint pour une danse à ses côtés. On a dansé des années à perdre la tête. J'en garde encore quelques ampoules assez discrètes. Mais souvent les valses se soufflent avant la fin. On est proche et pourtant bien assez loin.
Marrant.
Oui, c'est marrant. Et voilà, c'est Fabrice Lucchini que vous entendez, qui est en train de parler avec Christophe Honoré. Alors nous, on écoutait tranquillement Voyou et Paradis, le bal. Et voilà que Lucchini parle au breton.
Christophe Honoré.
Oui, parce que je trouve que leur voix avait quelque chose de celtique. Et j'ai pensé après à Alan Stivell et Christophe...
Alan Stivell que vous avez écouté dans les années 70
oui,
au début.
Oui, j'étais à fond Alan Stivell.
Et ça donne quoi?
Mais je ne saurais pas l'imiter.
Vous l'avez fait un peu, là.
Non, mais j'ai dit, c'était raté.
Il y a le renard et la belette, ouais. Ça, tu t'en souviens.
Oui, ben j'adore. Qui... Bon, alors, vas-y,
on va parler de Chiara Mastroianni, parce que Christophe Honoré, comme tous les grands artistes, est un obsessionnel. Et Chiara Mastroianni, il y a une passion entre le cinéaste et la comédienne qui est là depuis plusieurs années. Je crois qu'il y a 7 films avec elle et une pièce de théâtre. Elle, qui n'avait jamais joué comme sa mère au théâtre, vous l'avez convaincue de jouer dans Le Ciel de Nantes, qui est toujours en tournée actuellement à Lausanne, Christophe Honoré. On l'écoute à l'époque de Chambre 212.
Mais pourquoi agis comme James? Je trouve un mot passant et un mot vigné. Merde, Richard, un classement alphabétique, c'est tout de même pas l'organisation la plus difficile à saisir, non? Et bon, voilà, ils sont là, les James.
Tu sais, moi, je me demande si le mec qui t'a baisé cet hiver et qui veut continuer au printemps s'appelle A comme Antoine, ou A comme Alex, ou comme Abruti.
On est obligé de parler de ça maintenant?
Je sais pas, tu as l'air de vouloir faire du rangement.
Sur Christophe Honoré, vous avez dit ça à Cannes, j'ai trouvé ça très joli. C'est lui qui me rappelle à chaque fois pourquoi j'ai eu envie d'être actrice. Oui. C'est un beau cadeau de dire ça, quand même.
Mais parce qu'il me fait des beaux cadeaux avec des films que j'aime beaucoup et des rôles magnifiques.
Richard. Autant dire que je désapprouve totalement ton attitude.
Ce que j'adore avec lui, c'est qu'il n'a jamais lâché, comme on se connaît maintenant, on a commencé à travailler il y a plus de 10 ans, il a toujours été très intransigeant sur un cinéma d'auteur, mais en même temps, c'est un cinéma intelligent, mais pas intello. Et puis j'adore sa façon de filmer les acteurs, j'adore aussi le fait que, pour avoir tourné souvent avec lui, on n'a jamais fait deux fois la même chose.
Richard, comment tu peux être aussi jeune?
Je suis fou d'inquiétude, là, tu t'en rends compte?
Pourquoi avoir réveillé le passé?
Voilà, on n'a jamais fait 10 fois la même chose. Ça, c'est essentiel quand on est, on le disait tout à l'heure, écrivain, metteur en scène de théâtre, auteur de théâtre et réalisateur de ses propres films. C'est le fait de surtout essayer de changer à chaque fois. Est-ce qu'on y arrive déjà?
Bah, en tout cas, quand vous retravaillez avec un acteur ou avec une actrice, la première chose, c'est d'avoir envie de le ou de la surprendre. Et c'est assez essentiel. Après, moi, c'est pour ça que j'aime bien retravailler en fait avec les mêmes personnes. En fait, ça ne fait que ouvrir en fait des possibilités. Étrangement, ça n'enferme pas. Il y a des metteurs en scène qui demandent en fait à un acteur, à une actrice, et puis après, c'est comme s'ils avaient épuisé en un film en fait toute la possibilité. Mais c'est pas du tout ce qui se passe en fait. En général, sur un plateau, vous voyez un acteur jouer une de vos scènes et vous vous dites, j'aurais dû écrire autre chose en fait de plus fort ou de je veux dire, et à chaque fois, ça crée une espèce de frustration, une fin de tournage, de dire « Ah mince, je vais pas faire tout ce que j'aurais voulu. »
Parce que vous sentez plein de possibles encore.
Oui, et puis après, il y a les gens aussi avec qui, tout simplement, vous vous entendez bien, et puis vous avez envie de les retrouver. Parce que c'est ça, un tournage, c'est aussi quand même passer 2 mois avec des gens que vous voyez tous les jours, avec qui vous avez envie d'aller manger à la cantine, discuter, et qu'il y a une espèce de oui, il y a quelque chose quand même qui circule, qui est vraiment de l'ordre de la sympathie. En fait, c'est très très important d'avoir c'est une espèce de douceur comme ça qui règne sur un plateau. En tout cas, pour moi, elle est vraiment essentielle.
Ouais. Vous partagez ce sentiment d'une troupe qui est contente de se retrouver à la cantine et de pouvoir parler même d'autre chose du film, Fabrice Lucchini.
En tout cas,
est-ce que ça fait partie de vos plaisirs?
En tout cas, tourner un film, la décision de le tourner, c'est est-ce que tu vas être heureux de déjeuner avec les personnes avec qui tu es? Est-ce que tu es heureux de passer du temps à défaut? Mais ce que j'aime beaucoup dans Christophe, c'est qu'il n'aime pas du tout l'enfermement du compliment non plus. C'est pour ça que c'est assez subtil comment lui témoigner de l'affection sans l'envahir dans un truc qui t'immobilise.
En l'invitant dans le grand atelier.
Voilà, et parce qu'il y a une très belle phrase de Nietzsche, il rentre plus d'indiscrétion dans la louange que dans le mépris. Et il y a quelque chose de très indiscret. Et comme il avance masqué, car c'est un esprit profond, je voudrais le remercier d'avoir accepté de venir chez vous. Mmh. Et j'espère qu'on n'a pas... Et que ça, ça, que ça a été agréable pour les auditeurs.
Vous êtes déjà partie ?
Ah non, mais c'est parce que j'ai toujours une petite inquiétude. À quelle heure on se...
Ma réalisatrice m'a dit, tu dépasses pas 58 et il est 54.
Alors, donc... qu'est-ce que vous voulez ?
On a encore plein de choses à se dire. J'ai pas tout à fait d'ailleurs terminé sur Chiara Mastroianni. Au fond, pourquoi, d'une certaine manière, Christophe
Honoré... Moi, ce que je peux vous dire un truc, c'est que c'était très important, je me souviens, pour Fabrice, justement, de rencontrer Chiara.
C'était la première fois ?
Oui. Et moi, c'est la première fois qu'un acteur me demande ça. Me dit l'histoire et tout ça, ça a l'air bien, mais il faut être sûr en fait qu'avec Chiara on puisse s'entendre. Et donc on a organisé en fait un rendez-vous et
j'avais vu une chose d'elle qui m'avait plus qu'intéressé, le mot est médiocre. Non, il y avait un enterrement terrible de la maman d'un acteur. Et puis. Et puis on s'est retrouvés tous autour d'un verre. Et puis elle m'a dit au revoir Fabrice, alors que je l'avais quasiment jamais vu. Et j'avais trouvé que c'était très juste. Parce qu'un acteur, c'est une voix. Un acteur, ce n'est qu'une voix. Mmh. Une voix, c'est une sonorité. Un phrasé. Par exemple, l'époque que nous traversons n'a pas d'intérêt pour le phrasé. L'époque de Michel Bouquet, alors de Jouvet encore plus, de Rému, de Freinet, des très grands acteurs de génie comme Blier, comme Gabin, étaient des acteurs de phrasé. Et moi, dans ma vie, mon phrasé a été ce qui m'a fermé toutes les portes. Il y a une trentaine d'années, on disait « c'est une folle, c'est un vieil homo, une tata », etc. Puis après, le phrasé est devenu un truc qui m'a obsédé et... Rencontrer une actrice, c'est être à l'écoute. Elle est venue dans ma petite maison du 18e, là. Et puis, j'ai vu...
Elle vous a séduit ?
Ah oui, parce qu'elle est sur une économie. Elle a une tessiture vocale de grande qualité.
Elle a de l'humour.
Et elle est intéressée, pas par la carrière, mais par la psyché des autres. J'aime beaucoup les assoiffés de la psyché des autres.
C'est pas toujours le cas chez les comédiens ?
Parce que le comédien est une maladie. Mmh. Puisqu'être comédien, c'est ne pas avoir de nature réelle, de ne pas avoir de caractère. C'est pour ça que c'était qu'on ne les enterrait pas. Les gens disent des conneries, ils savent même pas pourquoi on n'enterrait pas les comédiens. Parce que la poque moderne veut dire les enculés de curés. Non, on n'enterrait pas. Un acteur est quelqu'un qui fait un pacte avec la non-authenticité de son moi. Il est capable de le prostituer ou de l'abandonner en faveur d'un rire. Donc c'est une position anti-aristocratique d'être comédien. C'est toujours être prêt pour n'importe quoi, qu'il y ait un acquiescement, qu'il y ait de l'applaudissement. Mais dans la vie, il y a deux choses qui te sauvent de ça.
30 secondes, Fabrice.
C'est Louis Jouvet et la psychanalyse.
Je vous ai dit 30, vous pouvez continuer encore.
Eh bien, la psychanalyse te permet d'y voir un peu plus clair dans tes conneries, dans la médiocrité de ton moi. Et Jouvet, parce qu'il a incarné la dimension jansénisme. Tu n'es plus comédien pour satisfaire ton ego, tu es comédien pour devenir vacant et pour que Hugo traverse ton corps et que La Fontaine fasse de la même manière.
Fabrice Lucchini est au Théâtre des Mathurins à Paris, puis en octobre et après à l'Atelier à Paris également avec Hugo.
Le théâtre de Charles Dullin.
Le théâtre de Charles et La Fontaine au Montparnasse, sous le regard d'Emmanuel Garacino qui vous a écouté, observé et d'une certaine manière dirigé aussi.
Absolument,
c'est un mot qu'on a
évidemment
employé. Et Christophe Honoré bientôt présent dans les salles avec un film qui va s'intituler
Marcello Mio.
Putain, comment tu l'as dit. Je savais que tu étais contente de dire parce que c'était le baptême définitif
c'est
du
vrai,
titre. J'ai senti qu'au moment où il t'a dit comment il va s'appeler, tu t'es dit putain, je vais le sortir. Et il est né là.
Et Laurie Nebrun-Vergne ont monté B à la préparer. Valentine Chédebois a programmé la musique. Il y avait à la technique Alexandre Chénet. Vous retrouvez l'émission sur FranceInter.fr. Samedi prochain, Dominica vous convie dans la balade à 17h et dimanche même heure. Laurent Lafitte reçoit Laurent Stocker de la Comédie Française. Dans un instant, après le journal, le documentariste Gilles Perret.